On parle souvent des artistes à partir de leurs œuvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui précède. Les inspirations, les pensées et préoccupations des artistes. L'œuvre en puissance. Je suis Oriane Emery et vous écoutez En Aparté, le podcast qui dévoile la face cachée des artistes et de leur création. Bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'univers de Sofia El Khiari. Cette réalisatrice de films d'animation m'impressionne par ses créations oniriques et délicates, questionnant les frontières entre rêve et réalité, mêlant émotion, sensation et invitation au voyage intérieur. Je vous invite d'ailleurs à prendre le temps de regarder ses courts-métrages disponibles sur son site internet, dont le lien se trouve en description de cet épisode, car c'est en visualisant ses créations que vous comprendrez la richesse et la diversité de son travail et que vous pourrez encore mieux entrer dans la discussion qui va suivre. Sofia s'est formée seule à l'animation traditionnelle, ce qui signifie qu'elle dessine ou peint des milliers d'images qui sont ensuite assemblées pour former quelques secondes de film. C'est un travail qui demande beaucoup de patience et de minutie, et bien évidemment de la passion. Et ça, vous le verrez, Sofia n'en manque pas. On a parlé justement de cette passion qui l'anime, de comment elle jongle entre ses propres projets, ses collaborations avec d'autres artistes, et parfois un job à côté quand elle est en attente de financement. On a parlé de l'impact de passer en festival, à la fois pour développer sa notoriété, mais aussi pour faire des rencontres avec de potentiels sponsors et producteurs. Le monde du court-métrage m'était assez opaque avant cette interview et j'ai appris beaucoup de choses sur ce milieu. On a évoqué comment elle trouvait ses idées, parfois à la manière des surréalistes en utilisant l'écriture automatique, de l'importance de l'expérimentation dans le processus créatif pour se laisser surprendre par des résultats inattendus et exceptionnels. Avant de commencer, je tiens à vous partager une petite anecdote sur l'enregistrement. Nous avons dû faire l'interview à distance puisque Sofia travaille actuellement en Suisse pour un projet de film et la connexion n'étant pas excellente, la qualité du son s'en ressent un peu et j'en suis vraiment désolée. J'ai essayé au montage de corriger également la latence qui s'est immiscée parfois entre les questions-réponses, rendant l'échange peut-être un petit peu moins spontané que d'habitude. J'espère que cela ne s'entendra pas trop et que vous passerez quand même un bon moment en notre compagnie. Et je vous laisse donc découvrir cette nouvelle conversation en aparté. Salut Sofia!
Salut!
Est-ce que rapidement tu peux te présenter aux auditeurs qui nous écoutent de la manière dont tu le souhaites?
Oui, alors je suis réalisatrice de films d'animation. J'ai réalisé essentiellement des courts-métrages jusque-là. Je travaille plutôt en technique mixte. Et voilà, là je suis en train de développer, de finir de développer mon prochain court-métrage dont la production va commencer dans les semaines à venir. Et parallèlement à ça, je travaille aussi sur d'autres films en tant que technicienne, plutôt animatrice. Voilà, mon travail est plus traditionnel, je fais des choses traditionnel, entre le traditionnel et l'expérimental, c'est beaucoup de choses à la main, alors de la photo, de la stop motion, de la peinture animée, du sable animé.
Super, un beau programme en tout cas. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu es arrivée à devenir réalisatrice de films aujourd'hui? Pour ceux qui ne le savent pas, on a fait la même école de commerce. Ma question, c'était à quel moment tu as su que tu voulais être artiste et voilà, comment ça s'est fait ton process entre tes études? Enfin, je sais que t'as refait des études après Orienté Cinéma. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail pour qu'on comprenne un petit peu tout ce processus?
Oui, alors en fait, je pense que j'avais toujours eu envie d'être artiste. Le cinéma d'animation, c'était un peu une idée qui est venue assez tôt, entre guillemets. Enfin, quand j'étais adolescente, j'avais déjà un peu ce rêve parce que, j'avais commencé à m'y intéresser parce que, dans mon lycée à l'époque, ils avaient organisé des rencontres un peu avec, différents métiers, etc. Et puis il y avait quelqu'un qui faisait des films d'animation et ça m'avait interpellée. Et moi, je dessine depuis toujours, en fait. Et du coup, je me suis dit c'est trop cool parce que du coup, c'est ramener le dessin dans le cinéma, dans le mouvement, avec la musique, avec la peinture. Enfin, pour moi, c'est vraiment le summum de la liberté créative. Après, pour arriver à en faire mon métier, c'était un petit peu plus compliqué. Je viens pas vraiment d'une famille d'artistes et j'étais plutôt bonne élève. Donc mes parents, enfin mon père particulièrement me voyait, enfin m'a vraiment poussée en tout cas à faire des études un peu plus sérieuses entre guillemets, parce que faut savoir aussi que je suis née, j'ai grandi au Maroc. Et voilà, et puis le cinéma d'animation n'est pas forcément hyper développé là-bas. Vivre de l'art aussi, c'est quelque chose qui paraît un peu peut-être plus utopique qu'ici en France. Et donc voilà, donc j'ai dû faire effectivement d'abord une prépa école de commerce où on s'est rencontrés avec Oriane avant de basculer. Enfin, en gros, le deal avec ma famille, c'était de valider mon diplôme avant de basculer dans ma passion, ce que j'ai fait après.
Ok. Et du coup, l'école que t'as fait, donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai noté le Royal College of Art à Londres, si c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on y apprend exactement? Est-ce que c'est toutes les techniques? Est-ce qu'on apprend à plutôt comment devenir artiste ou est-ce qu'on se perfectionne au niveau des techniques?
Ouais, ben c'est une école d'art, donc avec plusieurs cursus, un peu comme les arts déco peut-être à Paris. Donc enfin ça dépend du cursus, etc. Moi je me suis inscrite en cinéma d'animation et donc c'était un master en 2 ans. Je pense enfin c'est une école où on t'apprend vraiment à être artiste entre guillemets. T'es censé avoir déjà fait un film d'animation avant de rentrer à l'école, ce qui était mon cas. J'avais fait un court métrage et donc de savoir animer. Et puis ensuite, enfin les cours sont vraiment orientés en fait sur vraiment pousser le concept, l'histoire, l'expérimentation, les interactions avec les intervenants, avec les autres étudiants, etc. En fait, l'idée de cette école, c'est vraiment de pousser la recherche et le process créatif.
D'accord. On vous apprend à trouver votre style aussi, j'imagine.
Bah oui, en fait, ça vient assez naturellement parce que du coup, une école d'art, c'est aussi du temps. Et du matériel et puis être dans une classe avec d'autres futurs artistes talentueux, donc on se pousse les uns les autres et donc oui, c'est sûr qu'on nous pousse à aller dans la direction qui est la nôtre. En tout cas, moi j'ai senti que c'était comme ça dans cette école, en tout cas à pousser des choses qu'on avait un peu en surface et à les creuser et à les développer pour avoir un style un peu plus propre. Plus voilà, on discute aussi de cinéma en général, de réalisation, un peu de technique.
Justement, tu parles de différentes techniques. Peut-être une des choses qui te caractérise, c'est que, en tout cas, les 3 courts-métrages qui sont aujourd'hui disponibles sont avec des techniques très différentes les unes des autres. Est-ce que toi, comment tu te prépares à... Ou en tout cas, tu décides quelle technique tu vas utiliser sur un projet artistique? Est-ce que c'est vraiment une phase de test ou est-ce que tu sais déjà que parce que ton sujet va être focalisé sur telle thématique, tu vas utiliser des techniques associées?
Je dirais que ça dépend du projet. Souvent, en fait, quand j'écris un film, j'écris des mots et je dessine ou je fais des expérimentations à côté. Donc, c'est un peu deux langages qui se répondent entre eux. Donc je dirais que ça dépend. Parfois les mots ou le dialogue arrivent un peu en amont de la technique et c'est après que je fais des expérimentations en me disant bon ben telle ou telle technique ça irait bien avec tel sujet. Parfois c'est l'inverse. Parfois je commence d'abord par expérimenter avec la technique et puis ça me donne l'idée du contenu et du thème.
D'accord, ok. Et par exemple, enfin, tu me parlais d'une collaboration sur laquelle tu es en train de travailler en ce moment en Suisse, si je me souviens bien. Ma question derrière ça, et ce à quoi ça m'a fait réfléchir, c'est un peu comment sont organisées tes journées. En gros, c'est quoi ton quotidien d'artiste aujourd'hui entre la part que tu donnes à tes projets perso et les éventuelles collaborations que tu peux faire à côté?
Alors, pour le moment, en fait, ce que j'ai fait. C'est que j'ai du temps pour moi pour développer un projet propre. Donc mon prochain film dont je te parlais qui a mis un peu de temps à réunir le budget et à finir de se développer. Et à côté, voilà, j'essaye de rester réceptive, alors soit quand les gens me contactent, soit moi qui contacte des gens parce que j'aime bien leur travail, etc., pour aussi avoir, en attendant en tout cas de trouver par exemple le budget pour un film, d'avoir d'autres travaux rémunérés, mais qui restent quand même dans ma ligne et ma direction artistique. Donc c'est un exercice un peu de gymnaste où il faut un peu jongler entre son projet perso, la recherche de financement, sa com et les mails à envoyer en tant qu'artiste pour des collaborations. Parfois on t'envoie des mails avec des projets super intéressants et tu te dis bon, est-ce que j'ai le temps de le caser, est-ce que j'ai pas le temps de le caser. Donc voilà, il faut jongler avec ça et avec le planning et avec le Covid qui chamboule tout en ce moment pour essayer en fait. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce métier, c'est la passion, et donc s'il y a quelque chose qui me passionne, je le fais avec grand plaisir. Alors c'est sûr, je suis plus passionnée par mes propres travaux, mais parfois c'est le cas. Il y a des projets que je trouve très intéressants. Ce que je te disais actuellement en Suisse, je travaille sur un court-métrage d'une amie réalisatrice en peinture animée sur ses origines arméniennes. Et je trouve que le sujet et puis même la sensibilité artistique du projet, moi en tout cas, ça correspond aussi à des choses que je veux développer. Donc ça va aussi dans ma lignée.
Donc tu essayes de garder quand même une cohérence sur les projets avec qui tu... Enfin, en tout cas, avec les personnes avec qui tu collabores, quoi.
Ouais, c'est ça. J'essaye au maximum, en tout cas, de fonctionner à l'instant. Tu vois, si c'est pas des projets à moi, il faut que je sente que j'ai envie de le faire. Après, on n'a pas toujours ce luxe, hein. Parfois, on accepte des choses un peu moins excitantes. Mais là, de plus en plus, je pense aussi de plus en plus que j'avance dans ma carrière, je peux me permettre un peu plus de choisir des choses qui me correspondent un peu plus.
Ok, d'accord.
Voilà, après, il y a différentes choses qui m'intéressent. J'aime bien aussi, j'essaie aussi de m'orienter un peu plus dans le domaine de l'enseignement aussi.
Ah oui.
Si parfois j'ai des occasions pour donner des cours ou des workshops ou des choses comme ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse.
Ok, ouais.
Mais dans mon domaine.
Donc cette volonté de transmettre est importante pour toi, et pourquoi tu penses? Pourquoi c'est important pour toi?
J'ai l'impression que moi on m'a transmis pas mal de choses. J'ai eu de la bienveillance et moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, je pense. Après c'est partager ma passion avec des gens qui sont également passionnés, c'est quelque chose que je trouve assez beau. Et après quand t'as une classe, tout le monde n'est pas 100% à fond. Moi c'est quelque chose que je trouve qui est intéressant, en tout cas à faire à côté de mon travail, parce que c'est quelque chose qui peut être flexible, tu vois. Si on t'appelle aussi pour un workshop une fois de temps en temps, etc., c'est quelque chose que je peux caser dans un planning qui est un peu toujours instable.
Ouais.
C'est aussi pour ça que je pense que c'est intéressant. Enfin, c'est une source de revenus en plus du fait que il y a un côté transmission, échange avec les étudiants, qui est intéressant.
Ok. Ça marche, c'est intéressant. Et justement, tu parlais de ce planning instable et le besoin aussi quand t'es artiste de ne pas seulement créer, mais de trouver un financement pour. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu comment ça se passe en fait? Si demain je veux produire, enfin en tout cas j'ai une idée d'un film que je veux réaliser. En tout cas, toi, comment tu t'y prends de l'idée à finalement la production? Est-ce qu'il faut absolument avoir un financement pour pouvoir se lancer, ou est-ce que tu acceptes de te lancer un peu aussi en attendant que quelqu'un sponsorise le projet? Comment ça se passe?
Je pense qu'il n'y a pas une façon de faire. Pour moi, l'idée, c'est juste si on a une idée comme ça de film ou quoi, l'idée c'est d'arriver à en vivre, parce que le souci de l'idée de film, c'est que tant que effectivement t'as pas de sponsor, etc., ça peut être compliqué.
Oui.
Mais après t'as plusieurs moyens de faire. Il y a des gens qui travaillent à côté, qui économisent. Alors moi je vais parler de mon expérience sur ce court métrage que je vais commencer en production, qui est en fait mon premier court métrage post-études. En fait, j'en ai fait un autre post-études que j'ai oublié de t'envoyer d'ailleurs, mais qui s'est fait dans un laps de temps très court, donc que je compte plus comme un exercice sur mon temps libre. Mmh. Mais voilà, pour celui-ci qui arrive, le process. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé en CDD dans une boîte pendant 6 mois et j'écrivais à côté de mon travail.
T'étais à temps plein sur ce CDD?
Enfin, j'ai commencé à écrire un peu le scénario, à faire des dessins, etc. Ouais, j'étais à temps plein. Je recommande pas, mais ça s'est fait comme ça. Parce que c'est, enfin, je recommande pas parce que c'est, ça te fait un peu bosser les week-ends. Ouais. Après, c'était pas hyper intensif parce que j'étais plus en train de d'écrire, enfin, de faire une première phase d'écriture. J'ai approché un producteur que j'avais rencontré en festival pour m'aider justement à réunir les financements, etc. Et en fait, une fois que j'avais un dossier à peu près montrable, avec plus ou moins une histoire d'où j'allais, des dessins, etc., là, tu commences à demander des aides. Okay. Alors, il y en a plusieurs pour dans le cinéma. En général, tu commences par l'aide à l'écriture, des aides au développement, et puis finalement, tu as les aides à la production. Et donc, tu peux avoir des aides à chaque étape de ton projet. Moi, j'avais bénéficié d'une résidence d'écriture au Canada où j'avais pu développer mon idée pendant à peu près un mois et demi. Puis j'ai eu une autre bourse d'écriture et une autre bourse développement. Et après, là, j'arrive à avoir tout le budget de production. Mais voilà, le temps d'avoir tous ces financements, il faut avoir des projets à côté parce que le temps d'attendre des commissions peut être parfois un peu long. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu une gymnastique entre les sponsors que tu vas avoir, l'attente et les autres boulots à côté qui peuvent être intéressants et aussi intéressants financièrement.
Mmh. Ok, d'accord. Et toutes ces bourses ou ces résidences, comment ça fonctionne? C'est une sélection en fait qui se fait ou c'est quand il y a une place qui se libère qu'il faut être un petit peu au taquet pour postuler?
Ouais, c'est sur sélection. Après, c'est là l'intérêt de travailler avec un producteur, c'est qu'il a l'expérience et la stratégie par rapport à ton projet pour postuler à tel ou tel fonds.
Mmh, d'accord.
Et donc ça aide quoi, de mieux cibler tel ou enfin tel fonds parce que ton sujet peut les intéresser. Et du coup, il y a plus de chances que tu sois sélectionné. Mais c'est souvent sur sélection. Après, il y a les stratégies sont multiples. Donc, je pense chaque film bénéficie vraiment d'un moyen de financement vraiment différent. Après ça, là, je te parle d'un parcours classique de financement d'un film, mais tu peux aussi décider si t'as des économies à côté, si t'as une idée, si t'as envie de foncer, de le faire un peu comme ça sur tes économies, tu vois, et de s'auto-financer, s'auto-produire.
Ouais, d'accord.
J'y pense d'ailleurs pour d'autres projets. Hein. Sur ce projet-là, je trouve que c'est bien de l'avoir fait parce qu'aussi je sortais de mes études, donc j'avais besoin un peu d'un cadre financier, etc. Mais je m'empêche pas de penser que pour d'autres projets peut-être plus spontanés, why not, tu vois, se lancer juste sur des économies personnelles en fait.
Mmh, ok. Et combien de temps ça prend? Ou alors, prenons l'exemple d'un de tes derniers projets, par exemple, je sais pas, un film de 5, 10 minutes. Je me rends pas bien compte, en fait, des combien de temps ça prend justement du moment où t'as l'idée de trouver ce producteur qui va te suivre et t'aider à trouver des bourses à ensuite la création pure de A à Z du film.
Je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend justement si t'attends des financements ou si tu les attends pas, parce que ça aussi, ça peut ralentir le process. Ça dépend si t'as des jobs à côté ou pas. Mmh. Moi, par exemple, sur ce projet-là que je vais commencer en production, j'ai eu l'idée fin 2018.
Ah oui.
Tu vois. Donc ça commence un peu à dater. Mais voilà, entre l'idée que tu as et le temps que tu arrives vraiment à allouer à cette idée pour arriver à la développer, pour arriver à convaincre des gens de financer ton film, ça peut prendre un certain temps. Plus toi, si t'as d'autres idées, si t'as besoin que le projet ait plus de maturité, enfin il y a plein de circonstances. Moi en plus il y a le Covid qui m'a retardé le process de production. Mm. Donc franchement, ça dépend. Après, moi, quand j'étais étudiante, par exemple, où là, je cherchais pas de financement, ça peut être beaucoup plus rapide, quoi. En quelques mois, tu peux avoir ton court métrage. Après, ça reste toujours long parce que c'est de l'animation, que je fais de l'animation traditionnelle, que c'est des milliers d'images dessinées ou peintes. Et donc dans tous les cas, c'est un process qui est beaucoup plus long que le live.
Je pense par exemple à ton court-métrage IAM qui a eu un grand succès dans différents festivals. Tu as reçu plusieurs prix pour ce court-métrage d'ailleurs. Est-ce que le fait de recevoir ce genre de récompense t'aide sur différents volets, que ce soit la notoriété, du coup ça t'aide peut-être à trouver des financements, trouver des équipes pour t'accompagner sur tes projets ou... Enfin, est-ce que tu as vu une évolution par rapport à ça?
L'évolution que je vois, c'est juste, c'est à partir du moment, je pense, où je l'ai mis vraiment en ligne et qu'il y ait plus de monde qui l'ait vu et que je me retrouve à être contactée parfois parce que des gens ont vu ce film et qui veulent parfois. Alors, les collaborations ne sont pas forcément faites, mais parfois j'ai reçu des mails en me disant bon, ben, on aime vraiment bien le style dans ce film, on aimerait collaborer, on aimerait te proposer quelque chose. Donc c'est ouais, je pense que ça aide, c'est sûr que le film soit plus vu entre guillemets. Après les prix en eux-mêmes, est-ce que ça impressionne des gens ou enfin, ou les gens qui financent. Moi là où je travaille en ce moment en Suisse, il y a un réalisateur qui travaille dans les bureaux à côté qui s'appelle Claude Barras, qui a réalisé un long métrage qui s'appelle Une vie de courgette, qui a eu un grand succès, enfin un long métrage d'animation en stop motion, et il a déjà été présélectionné aux Oscars, aux Césars, enfin il a gagné plein de prix et il a quand même reçu un refus du CNC je crois à un moment. Donc, je ne sais pas si ça fait tout. je pense que c'est plus, plus que les prix, c'est plus le fait que les films soient accessibles et que les gens les voient et qu'ils les aiment en fait. Parce que c'est quand les gens aiment un film qu'ils ont envie de t'accompagner ou qu'ils ont envie de travailler avec toi. Je ne sais pas si des prix et tout ça impressionne encore, sauf peut-être si c'est le grand prix, si t'as l'Oscar du meilleur film.
La Palme d'Or. Et justement, là, bah, par exemple, tes films sont disponibles gratuitement sur Vimeo, enfin sur tes plateformes. Est-ce que un des moyens de financement, c'est aussi la vente de droits de ces films-là, ou est-ce que c'est plutôt sur du long métrage que ça se fait?
Pour IM et pour mon dernier film que j'ai pas sorti en ligne, le Corporeux, ils sont tous les deux distribués par un distributeur qui effectivement récupère un peu de sous à droite à gauche sur des projections en cinéma, en plateforme de streaming, etc. Après, je t'avoue que vraiment le prix est dérisoire parce que c'est du court métrage. IM, c'est un film de 3 minutes. Donc je pense que c'est pas ça qui va me rendre riche du tout. Mais sur le long métrage, effectivement, ouais, je pense que la distribution, c'est surtout si t'es à la télé, par exemple, t'as des droits d'auteur, des choses comme ça. Mais je pense que ça a beaucoup plus d'impact sur du long métrage que sur du court métrage. Le court métrage, c'est pas très rentable entre guillemets. C'est plus moi, je le vois vraiment, comme un kiff artistique en fait, tu vois. Enfin, que t'as une idée et que t'as vraiment envie de la faire et que du coup, le court métrage en animation, tu peux vraiment te permettre beaucoup de choses. Et parce que si tu réfléchis en termes de rentabilité, t'arrives à te financer, à te payer le temps que tu le fais et déjà c'est bien. Oui. Mais est-ce que t'arrives à avoir du retour sur investissement après? Je suis pas sûre. Après, parfois, ce qui se passe avec du court métrage, c'est que effectivement, si t'as un long un jour, bah, les gens voient ce que t'as fait en court métrage et t'as plus de chances d'être soutenu pour du long métrage si les courts métrages ont plu ou s'ils ont gagné des prix ou des choses comme ça.
Et tu me parles de court-métrage, de long-métrage. Évidemment, je pense que par bon sens, on comprend que le court-métrage, c'est plus simple à la fois à produire du coup à financer, puisque c'est des temps de production et de création moins longs. Mais toi, est-ce que tu as des projets ou un projet de long-métrage à court ou long terme, hein?
J'aimerais bien faire un long-métrage parce que l'avantage du long-métrage, c'est qu'il touche une plus grande audience et que tu peux vraiment plus dialoguer avec le public que le court-métrage. Souvent, à moins qu'il y ait un énorme buzz sur Internet, il est souvent vu en festival et tout le monde va pas forcément en festival. Voilà, donc c'est sûr que j'aimerais toucher plus de gens avec mes films, et je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est avec un long-métrage. Après, pour le moment, je me lance pas parce que j'ai pas d'idée qui tienne sur un long métrage. Je pense qu'à partir du moment où j'aurai une idée et que je me dirai là, ça tient vraiment sur un format long,
ouais.
Et j'ai envie de le faire parce que c'est aussi, ça peut être fatigant, je pense, un long métrage.
Ouais.
Émotionnellement, ça peut être. Enfin, du coup, c'est le temps de développement de production est plus long, donc il faut vraiment tenir son idée. Donc il faut vraiment, je pense, une idée à laquelle je tienne vraiment et où j'ai envie de m'engager, tu vois, sur peut-être plusieurs années sur un long, quoi. Mais c'est dans un coin de ma tête.
on retient. mince, du coup, j'ai perdu ma question. Ah si, voilà. Enfin, de ce que je comprends, c'est que t'es quand même assez indépendante dans toute la phase de création, d'idéation et de peut-être d'expérimentation des techniques pour savoir où tu vas. Est-ce que pour peut-être d'autres éléments qui constituent le film, je pense par exemple au son, c'est toi qui réalises également, ou est-ce que tu te fais aider, et auquel cas, comment cette équipe se forme?
Je suis assez indépendante, c'est vrai, et c'est des projets courts qui me permettent un peu de toucher à tout. Après, ça m'arrive de bosser avec d'autres gens, que ce soit à l'animation, à la colorisation, parce que ça peut être très long. Donc d'avoir une aide de ce côté-là. Et pour ce qui est du son, moi, le son, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire à la base. Donc j'aime vraiment un peu avoir le nez dedans. Donc je sais pas si les sound designers qui bossent avec moi sont très contents que j'ai tout le temps le nez dedans, mais c'est vrai que je vois aussi mes limites et que j'aime bien travailler avec quelqu'un qui va m'apporter quelque chose en plus. D'ailleurs, là, pour mon prochain film, je suis en train de réunir mon équipe. Alors ce sera une toute petite équipe, mais je vais avoir quelqu'un pour le son, quelqu'un pour la musique, quelqu'un pour m'aider au montage, quelqu'un pour la post-production, tout ce qui est compositing, modélisation, etc. Puis quelqu'un à l'animation. Donc ça va, tu vois, il y a quand même une petite équipe, même sur du court-métrage, sans compter tout ce qui est post-production, étalonnage, mixage, etc.
Dans tout ce que tu viens de dire, là, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est en post-prod, la modélisation, ça veut dire quoi concrètement?
Ouais, j'ai pas développé. J'ai pas développé parce que, en fait, j'entendais plus modélisation 3D, mais c'est spécifique à ce film-là parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements caméra. Et je pense qu'on va les animer traditionnellement, mais j'aimerais avoir quelqu'un aussi qui m'aide en posant des caméras 3D, en fait, sur le logiciel.
Ah oui.
Pour faciliter l'animation, tu vois. Mais voilà, c'est des détails très techniques.
Non, mais c'est intéressant. On veut savoir, hein. C'est un podcast sur les coulisses, donc... Ok, donc ouais, donc t'as une petite équipe sur la partie son, musique, montage. Mais en fait, ça dépend. Est-ce que ces personnes-là, c'est des gens avec qui tu les connais, du coup t'as l'habitude de travailler avec eux, ou est-ce que c'est en fonction du projet, tu dis bah typiquement là demain je suis au Canada, du coup je vais trouver un monteur au Canada. Comment ça se présente?
Souvent. Ouais, c'est un peu des opportunités comme ça. Tu cherches quelqu'un et puis d'autres gens te recommandent quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, en général, quand je suis au même endroit, j'aime bien travailler avec les mêmes personnes avec qui j'ai travaillé auparavant parce que En fait, j'aime bien choisir des gens qui vont avoir une sensibilité proche de la mienne. Et du coup, qui vont comprendre exactement où je veux aller dans le film et qui vont être capables, non seulement, tu vois, d'apporter un aspect technique, mais en plus d'apporter presque un regard artistique autre que le mien au projet. Donc, une fois que je trouve ces gens qui me comprennent et qui aiment bien travailler sur mes projets, souvent, bah, j'aime bien les garder sur d'autres projets. Après, effectivement, si demain je vais au Canada où je connais personne, du coup, il faut retrouver de nouveau. Et donc, tu postes des annonces, tu demandes à des amis de te recommander quelqu'un et tu vois comment ça se passe.
Ouais, du coup, c'est beaucoup sur conseils, recommandations, que ça fonctionne, en fait.
Ouais, c'est vraiment du hasard. Parfois, c'est juste des posts sur des réseaux sociaux. J'avais trouvé la personne avec qui je bosse sur le son en mettant un message sur Instagram. Et une copine avait repartagé sur son compte et elle avait vu et puis elle m'avait répondu. Et puis, en fait, c'était un hasard total et le match était bien.
Ah, c'est chouette.
Donc, c'est un peu... Ça dépend, en fait.
Ouais, tant mieux quand ça se passe comme ça. C'est vrai que je pense que c'est l'idéal. C'est clair.
Après, je pense que tu le sens aussi assez vite si ça fonctionne pas en termes de réceptivité au travail, etc. Tu vois.
Ouais.
Si tu commences à travailler avec la personne et que tu sens qu'elle est pas réceptive à tes directions, au projet, etc. Je pense que tu le sens assez vite pour pouvoir après changer assez rapidement. Tu vois ce que je veux dire?
Donc il y a une sorte de période d'essai où les premiers jours où vous commencez à bosser ensemble, tu vas tout de suite savoir si ça va le faire. Sur la durée ou pas, quoi.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a pas mal d'instinct aussi là-dedans. Même quand tu discutes avec la personne au début, et puis tu vois aussi son travail avant, ça donne quand même des indications. Et ouais, je dirais peut-être pas période d'essai, mais un petit peu, ouais, un peu dans les deux sens. Je pense que si ça matche pas, ça matche pas. mais bon, en général, je sais pas. Enfin, moi personnellement. J'ai pas envie de me porter la poisse, mais j'ai l'impression que j'ai une bonne intuition au départ sur les gens. Donc qui permet de pas rester trop longtemps avec quelqu'un avec qui tu n'as pas du tout la même vision.
Bah tant mieux si t'as ce feeling là, je pense qu'en effet c'est nécessaire, ouais. Mais c'est intéressant de voir que finalement il y a beaucoup de rencontres et beaucoup de de rencontres et de projets artistiques qui se font aussi beaucoup sur du hasard et des coïncidences. Et c'est aussi, enfin, je trouve que ça participe à la magie de l'œuvre finale. Je trouve ça assez chouette.
Ouais, non, c'est vrai.
Sur Instagram, tu te définis comme dreamer, rêveuse. Et de toutes tes créations, il y a une sorte d'émanation de cette atmosphère assez onirique entre rêve et réalité, avec beaucoup de symboles, de métaphores. Est-ce que t'entretiens, enfin, quel rapport t'entretiens avec le rêve et cette frontière finalement entre le rêve et la réalité?
Ah waouh, j'adore cette question. c'est vraiment, je pense, un peu au cœur de mon travail. Enfin, je pense, je saurais pas dire pourquoi c'est vraiment au cœur. Enfin. C'est vraiment aussi important pour moi. Je pense que c'est juste j'ai eu une enfance et une adolescence un peu très rêveuse. J'étais vraiment tout le temps dans mes pensées. Et pour moi, le rêve, ou le monde intérieur, c'est vraiment un espace que peut-être que j'ai beaucoup exploré. Et voilà. Et c'est vrai que j'aime bien. C'est vrai, c'est un de mes thèmes. Hein, j'aime bien confronter. Le rêve et le réel et puis un peu les entremêler et puis questionner ça aussi, qu'est-ce qui est vraiment vrai, est-ce que le rêve aussi est un peu réalité, enfin il y a plein de sous-thématiques qu'on peut créer, mais c'est vrai que ça participe d'une espèce d'atmosphère que j'essaye d'avoir où on rentre un peu dans quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'enfance, tu vois, où on est vraiment dans le rêve, dans les pensées, mais en même temps, on reste dans le monde réel, qui est pour moi un peu le monde adulte. J'aurais tendance à dire que le rêve est plus positif, mais ça dépend des fois.
Donc toutes ces réflexions là,
je sais pas trop si j'ai répondu.
Si, carrément. Comment toi tu me dis que t'explores beaucoup ton monde intérieur et du coup ça se ressent dans tes créations. Comment tu fais ou comment tu as fait pour faire toutes ces explorations?
Je veux bien que tu précises un petit peu ta question.
En fait, finalement, tu parles de monde intérieur que tu aimes bien explorer et après ça se ressent dans tes œuvres, bon, notamment corporeux, mais d'autres aussi. Est-ce que tu as des actions qui te permettent d'explorer ce monde intérieur afin de trouver l'inspiration qu'on retrouve dans tes créations? Est-ce que tu as, je sais pas, une forme de... Je dis n'importe quoi, peut-être pas du tout, mais est-ce que tu médites? Est-ce que tu as des sortes de rituels qui te permettent de trouver cette inspiration-là? Ou est-ce que c'est à travers d'autres... quand tu regardes d'autres œuvres d'art, des films, d'autres choses comment tu cultives aussi ce monde intérieur-là qui t'inspire en fait?
Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Mais ce que je comprends, ta question, elle est vachement liée à l'inspiration et comment je trouve mes idées.
Oui, c'est lié.
j'aurais tendance à dire, ouais, c'est ça. Que, enfin, ça peut être par plein de biais. Ça peut être, enfin, parfois, tu sais, quand t'as une idée, ça arrive juste comme ça. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais tu ressens quelque chose. Ça peut être un moment du quotidien ou quelque chose qui va t'émouvoir particulièrement ou quelque chose qui est assez fort par rapport à ce que tu vis tous les jours. Et pour moi, souvent, c'est un peu des émotions ou des choses un peu intériorisées. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être pour ça que je parle plus de monde intérieur. Et après, je passe beaucoup de temps. Enfin, je suis souvent avec des gens, mais j'ai aussi beaucoup de moments où je suis seule. Je pense que ça aussi, ça permet de développer parfois, enfin, de pas un monde intérieur, mais de s'évader un peu dans ses pensées, etc. Il y a aussi un process que j'utilise beaucoup quand je j'écris des films, c'est l'écriture automatique. Donc, il y a aussi des process qui viennent un peu de l'univers surréaliste en fait, qui sont le fait de laisser librement aller un peu son inconscient et le fait de dessiner de façon automatique, d'écrire de façon automatique, ça me permet souvent de révéler des choses plus profondes que ce dont j'aurais conscience en fait.
Ouais.
Donc ça c'est un moyen peut-être un peu plus technique mais que j'ai utilisé sur des derniers projets.
Et donc pour toi, donc ça passe surtout aussi par s'autoriser à prendre le temps de peut-être l'ennui et de la réflexion sur soi. C'est ça aussi qui te permet d'avoir des idées.
Ah oui, je pense que je m'ennuie beaucoup, mais j'aime bien. Quand je dis je m'ennuie beaucoup. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai pas de problème à certains moments à avoir des moments où il se passe rien, effectivement. Et c'est souvent ces moments-là où qui sont un peu inactifs, qui sont plus propices effectivement à l'émergence d'une idée. C'est vrai, j'avais jamais pensé, mais je pense que c'est vrai, ouais.
Et donc, t'arrives quand même à t'accorder ce temps-là. Plus passif, mais qui finalement est plus propice à la créativité, malgré le fait que tu jongles entre tes mails, plusieurs projets en parallèle, etc. Est-ce que tu arrives quand même à cadrer des temps où c'est un peu voilà, là j'ai un trou et ça tombe bien et du coup c'est peut-être un petit peu plus propice à la créativité ou est-ce que tu t'imposes aussi ces moments plus de je stoppe tout, je coupe le téléphone et les mails et je réfléchis.
Souvent, c'est en tout cas sur ce prochain projet, ça a été les moments où j'avais du financement sur l'écriture, le développement et qui me permettait de me dire bon bah là je me pose et je laisse couler un peu les idées librement sans avoir de stress, de me dire bon bah il y a tel deadline, tel truc. Et c'est les je pense les moments où je suis plus confort stable, c'est quand financièrement c'est ok pour me dire bon ok là je me pose et j'essaye vraiment juste de faire émerger les idées assez librement. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le premier confinement aussi. Alors les autres m'ont un peu moins plu, mais le premier confinement de mars, c'était incroyable.
C'était salutaire.
C'était vraiment un temps où ouais, c'était salutaire parce que j'étais tout le temps en mouvement avant. Bon, après, à un moment, ça dure trop, cette histoire. Hein. C'était
ouais.
2-3 mois, c'était bien. Après, quand tu annonces le deuxième, le troisième, c'était un peu too much. Mais ouais, c'est vrai que c'est important. Souvent, je le fais sur des longues durées, mais c'est vrai que je me dis que je devrais avoir plus de discipline par rapport à ça dans le futur et me l'instaurer même parfois dans des moments dans la semaine. Mais souvent, c'est vrai que je carbure beaucoup. Et après, je m'autorise vraiment à ce moment-là, hein, plus tard, un laps de temps où je laisse vraiment juste émerger les choses. Ou parfois, ça peut être en vacances aussi. Tu vois, le cerveau, il est reposé. C'est souvent, d'ailleurs, quand je suis en vacances ou en voyage, t'es plus attentive à ce qui t'entoure. Enfin, le cerveau est plus reposé et ça permet plus d'absorber des choses, en fait, je pense.
Mmh. Ouais.
Bon, on n'est pas toujours touché par la grâce, hein, ça. Ça dépend des moments.
Pour toi, justement, les idées, c'est touché par la grâce, en mode, c'est beaucoup dépendant du hasard et peut-être de la place qu'on laisse aussi aux idées dans ces moments plus, soit d'introspection ou de pause. Ou est-ce que t'arrives aussi parfois à te dire, là, j'ai besoin d'une idée, très rapidement, je vais l'avoir d'ici la fin de la journée?
Non, j'aime pas forcer les idées. Parce qu'en général, elles sont toujours mauvaises quand tu fais ça, je trouve. Non, mais souvent, ce qui se passe, c'est que je peux avoir des idées. Alors, parfois, j'ai the idée. C'est là que je dis, genre, le moment où t'es touché par la grâce,
ouais.
Où t'es vraiment inspiré et tout. Parfois, c'est juste vraiment, souvent, c'est des mini-idées, tu vois. Ou juste, parfois, tu vas regarder un film, ça va te donner une idée. Tu vas lire un truc, ça va te donner une idée. Tu vas entendre un truc à la radio, ça va te donner une idée. Et en général, ce que je fais, c'est que j'ai une liste avec genre un peu des bébés idées comme ça.
D'accord.
C'est marrant, on en parlait avec ma copine réalisatrice en Suisse, là, il y a quelques jours. Elle aussi, elle a plein de bébés idées. Et tu les notes un peu comme ça, et puis c'est comme si t'avais des tiroirs avec plein de petites idées, et puis bizarrement, tu sais qu'à un moment, elle va ressortir cette idée, tu vois. Tu sais pas quand, mais tu sais qu'à un moment, elle va ressortir plus tard dans ta vie, ou alors elle va se recroiser avec un autre projet, parce qu'au final, tu vois, en tant qu'artiste, t'es toujours la même personne. Donc, t'es toujours un peu habité par les mêmes interrogations, les mêmes thèmes. Qui se recoupe un peu différemment. Donc c'est marrant. Parfois je me disais j'avais cette idée il y a je sais pas tant d'années et puis finalement je finis par la faire à ce moment-là mais d'une autre façon. Donc voilà.
Ah c'est marrant. C'est marrant comment ça mûrit aussi d'une certaine manière et après ça ressort peut-être au moment où tu y attends le moins ou qu'il y a cette opportunité qui se présente. C'est vraiment enfin, je sais pas, moi, ça me fascine, ce process d'idéation.
Ouais, c'est un peu comme... pour moi, les idées aussi, elles sont liées à des thèmes que tu vois, qui reviennent. Donc, c'est vrai que parfois, pour des collabs ou des trucs, telle personne va te parler de tel thème qui, toi, te passionne, et t'avais une idée, mais qui était un peu différente, mais tu te dis, allez, ok, pourquoi pas, tu vois. Finalement, ça se recroise. Donc,
Et c'est là où l'alignement des planètes se fait. Et est-ce que tu as des idées la nuit ou à des moments improbables qui te réveillent?
Franchement, non. J'aimerais pouvoir dire ça. Non, est-ce que j'ai déjà rêvé d'une idée dans mon sommeil? Non, pas vraiment. Mes rêves sont assez ennuyeux en général.
T'arrives à retranscrire le rêve, mais dans ta réalité à travers tes films, en fait.
Ouais, c'est ça. Ça m'arrive plus... ça arrive à des moments où tu t'y attends pas forcément d'avoir une belle idée ou une inspiration. Mais je dirais pas que non, il n'y a pas des moments de la journée. Parfois, c'est des rencontres. C'est comme tu dis, c'est avoir vu des choses artistiquement ou pas artistiques d'ailleurs, c'est de se questionner sur tel ou tel sujet. Et c'est oui, pas pour revenir aussi à ce que tu disais par rapport au rêve la nuit, il y a quelque chose quand même, c'est que je pense que quand tu fais peut-être du dessin ou des arts visuels, tu peux aussi avoir tendance à visualiser l'idée, si tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
À visualiser un dessin presque. Donc ça, c'est pas des rêves où t'es endormi, mais ça peut être conscient dans la journée où tu peux visualiser quelque chose. Ça arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver sur des bribes d'un projet, tu vois. Tu visualises quelque chose et tu sais que tu dois le faire et t'as envie de l'essayer. Et je pense, voilà, c'est quand tu dessines ou tu fais de la photo ou des choses comme ça, tu visualises plus parce que j'ai un ami qui fait du son. Alors lui, il entend des sons. Donc, moi, je trouvais ça très surprenant. Mais je pense que c'est selon ta pratique.
Ouais, c'est ça. T'as des sensibilités plus ou moins fortes selon ton art, ouais, c'est clair. Et justement, quand t'as cette une visualisation, une idée qui te vient, est-ce que t'as besoin de tout de suite en faire un petit croquis pour ne pas l'oublier, ou est-ce que t'arrives à le mettre dans un coin de ta tête et le ressortir quand tu es plus disposé à traiter cette idée?
Souvent, je l'écris. Donc, sans forcément dessiner, je l'écris pour me rappeler que j'avais eu telle ou telle idée. Et je sais que quand j'aurai un peu plus de temps, je me mets au dessin.
On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Je ne sais pas si tu as écouté les précédents, mais j'aime bien poser des petites questions flash. Et puis c'est très lié à ce qu'on vient de se dire sur les inspirations diverses et variées. Alors, je voulais te demander quelle était la dernière chose qui t'a émue.
En ce moment, j'y ai pensé, j'ai repensé aujourd'hui. J'ai été très émue. Alors, c'est horrible, c'est vraiment un truc de citadine que je vais dire. Mais j'étais sur un projet à la campagne il y a quelques mois et il n'y avait pas de lumière. Et j'ai vu un ciel étoilé magnifique. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment émue. Et voilà.
Ah, la beauté de la nature, ça fait toujours son petit effet.
C'est ça.
Est-ce que tu... C'est quoi le dernier film que tu as regardé, animation ou pas, et que tu as particulièrement aimé? Pas forcément le dernier d'ailleurs, mais...
un film que j'ai vu récemment et que j'ai particulièrement aimé. Alors, j'ai pas d'idée comme ça. Hier, j'ai regardé un court-métrage expérimental. Alors, je l'ai encore tout près dans ma tête. Peut-être que je peux en parler. Que j'ai trouvé hyper intéressant, qui était fait en utilisant des coupes microscopiques d'arbres. Voilà.
Wow.
Alors, j'ai trouvé juste hyper intéressant visuellement. Je pourrais te l'envoyer.
Carrément.
Tu pourras le mettre en commentaire.
Ouais, avec plaisir.
Et voilà, c'est la chose à laquelle je pense.
Et pourquoi expérimental? C'est parce que c'est les coupes d'arbres spécifiquement, ou c'est un type de court-métrage?
Expérimental parce qu'il est pas narratif, et quand tu lis l'interview du réalisateur, en fait il a vraiment fait des expérimentations, il s'attendait pas à visuellement tomber là-dessus, et il est tombé sur plein d'images microscopiques de plantes et d'arbres, et il a trouvé ça magnifique, il les a mis bout à bout et ça fait une espèce d'explosion de couleurs comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est expérimental.
Le résultat surprend même le créateur, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est quand tu fais un film comme si tu t'expérimentais, en fait. T'essayes des choses, mais tu sais pas où ça va mener.
Toi, t'aimerais bien travailler comme ça?
Ça m'est déjà arrivé, ouais, de plusieurs fois, de faire des tests et de pas savoir où j'allais. Et de me dire visuellement en fait ça rend quelque chose d'intéressant et je vais l'utiliser au service de mon récit.
OK.
Mais j'aimerais bien après ce film que je vais commencer, effectivement, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de très expérimental, très inconscient, voilà. Je pense juste envie de m'amuser avec la matière, mais ce sera pour un prochain projet.
On a hâte de voir. Est-ce que tu lis quelque chose en ce moment?
Alors, je viens de finir une BD, un roman graphique qu'une copine m'a prêté. Alors, je suis mauvaise en plus pour le titre.
Tu peux aller chercher.
Je vais l'avoir là quelque part, il va traîner. Je vais te retrouver le titre parce qu'il est pas mal. La rose la plus rouge s'épanouit de Liv Stromquist. C'est enfin l'autrice. Elle parle d'amour sur plusieurs pages et elle décortique. Enfin, c'est très intellectualisé, mais pourquoi les gens, beaucoup de gens n'arrivent plus à s'engager, à être amoureux et à être dans des relations amoureuses passionnelles classiques comme avant. Donc, c'est assez intéressant parce qu'elle recoupe beaucoup de recherches philo. De sociologie aussi, de psychanalyse, et puis c'est raconté un peu de façon humoristique en BD, et voilà, c'est une copine qui m'a prêté ça parce qu'elle s'intéresse beaucoup à ça en ce moment, et c'est une lecture assez chouette.
Ça a l'air sympa en effet, ça me donne envie. Toi, ça te plairait de travailler sur des romans graphiques?
Ouais, j'aimerais bien. Ouais, non, j'aimerais bien, mais c'est comme tout, hein, j'ai trop d'envie. Mais j'aimerais bien, ça fait partie de mes multiples projets en liste d'attente, mais le format livre, c'est pas mal parce que je trouve que c'est vraiment un vrai objet physique. C'est long aussi comme process, mais je pense que c'est moins fatigant que de se taper des milliers de dessins à animer.
Ouais.
Voilà, entre deux films, c'est pas mal, en pause. Donc ça m'intéresse, ouais.
Ça m'étonne pas. Est-ce que tu aurais des artistes amis ou non, mais que du monde de l'animation? On disait, c'est vrai que le court-métrage, ça peut être assez, c'est pas très grand public, en tout cas ça ne l'est pas toujours. Est-ce que tu penses à certains artistes qui mériteraient d'être connus dans le monde de l'animation ou pas d'ailleurs? Et que t'aimerais mettre en avant pour les faire découvrir au monde.
Ok, waouh, j'en connais beaucoup. Alors, comment je vais faire ce choix? Choix compliqué. J'ai droit à combien de noms?
Comme tu veux. Je t'arrêterai au bout de 2h30.
je peux déjà conseiller la réalisatrice avec qui je travaille en ce moment, qui s'appelle Élodie Dermange. Qui est suisse et qui fait des films, alors souvent très portés sur des questions féministes. Elle a fait un court-métrage documentaire où elle interviewait une actrice porno, en animation aussi, un autre film où elle traitait de la thématique de l'avortement. Après ces films, est-ce qu'ils sont dispo? Je pense qu'il faut lui envoyer un petit message sur Instagram pour les voir. C'est un peu ça.
D'accord.
Aussi. Sinon, toujours dans des thématiques peut-être un peu féministes, il y a un super film d'une réalisatrice coréenne qui est une copine aussi qui s'appelle Eunju Arashoy, qui s'appelle Happy Ending et qui interview une prostituée coréenne, et c'est vraiment super un super joli film. Et peut-être un dernier, toujours pour rester dans des réalisatrices du coup. Une réalisatrice, alors je crois qu'elle vient du Kenya, qui s'appelle, j'ai pas envie d'écorcher son nom, mais c'est Ngendo Muki, je crois. Et elle a fait un film qui s'appelle Yellow Fever, qui est genre magnifique, qui est un film sur le corps noir, l'appropriation de la peau noire, et elle fait un lien, en fait, c'est des plans macro de peau de femmes noires, et elle fait le lien beaucoup avec la façon dont on filme la taxidermie. Et je trouve le film vraiment super fort pour ce qu'il a de décolonial et d'appropriation du corps noir. Voilà.
Et ma foi, c'est des très belles références. J'ai très envie de découvrir ces réalisatrices que je ne connaissais pas en effet. Donc merci pour la recommandation. Petite dernière question pour rester dans le monde du rêve. Quel est ton plus grand rêve en tant qu'artiste?
J'aimerais continuer de vivre de mon art, déjà. Je trouve que c'est bien. Pour l'instant, c'est le cas et j'espère que ça va continuer parce que on sait jamais. Et puis, quel est mon plus grand rêve? Je pense Je sais pas si j'ai vraiment un rêve. Bah, bien sûr, on a un peu des ambitions tous. J'ai envie que mes films soient le plus vus possible, qu'ils tournent plus en festival, etc. Mais je pense que je suis vraiment juste déjà heureuse entre guillemets. Pour moi, c'est déjà le rêve en fait. c'est hyper niais ce que je veux dire, mais mais je suis déjà, je suis déjà satisfaite. Donc s'il y a plus de choses, je prends, tu vois. Mais je suis déjà contente.
Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite et ça a l'air bien parti. Ouais. Le meilleur pour tes prochaines aventures artistiques qu'on va suivre. Merci en tout cas pour cet échange, Sophia. C'était vraiment super intéressant, tant sur la découverte du monde du court-métrage et du monde du cinéma d'animation. Moi, j'ai appris plein de choses en tout cas et je pense que je ne serai pas la seule parmi les auditeurs. Donc merci pour ton temps et toutes ces belles découvertes que je mettrai dans la description de l'épisode.
Bah, merci beaucoup de m'avoir invité.
Avec plaisir, à très bientôt.
À plus, salut.
C'est encore moi. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Sophia et que vous aurez envie de découvrir son univers et ses films si ce n'est pas déjà fait. Ses créations sont disponibles gratuitement sur son site internet sophiaelchiari.com. Je vous le mets en description. Je vous partage aussi son compte Instagram où elle expose ses récentes expérimentations. N'hésitez pas à nous taguer en story ou à nous écrire en message privé sur Facebook, Instagram ou LinkedIn pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Vos retours sont toujours très précieux et ça fait chaud au cœur de voir que vous avez apprécié ce format de podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast favorite afin d'être informé de la publication des prochains épisodes. D'ailleurs, un hors-série surprise arrive bientôt, alors accrochez-vous, ça va être du lourd, du très lourd. N'hésitez pas aussi à m'écrire pour me donner des idées de personnes que vous aimeriez que j'interviewe. Il paraît qu'on est à 6 degrés de séparation de connaître n'importe quelle autre personne sur Terre. Alors n'hésitez pas à me proposer des contacts pour rencontrer, je sais pas moi, Céline Dion ou Florence Foresti par exemple. Sur ce, prenez soin de vous, regardez des films, c'est bon pour la santé, et à très bientôt pour de nouvelles conversations en aparté.